Bon matin, frères et sœurs, vous allez bien? Il y a plusieurs fois qu'on vous le demande ce matin. Hein. Ça doit bien aller. La fête des pères, en passant bonne fête au papa, c'est une lourde responsabilité d'être un père. C'est une responsabilité. Et c'est une responsabilité, je m'en rends compte encore aujourd'hui, où ce que maintenant je ne suis plus un papa, je suis rendu un papa qui est devenu un grand-papa. Et mes enfants sont partis loin. Mais lorsqu'il arrive un conflit dans la famille, comme ça arrive dans toutes les familles, tu es encore un papa. Je peux vous le dire, tu as encore ton mot à dire comme papa. Et c'est vrai pour probablement jusqu'à ma mort. J'ai choisi Éphésiens 3, 14 et 20. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Pourquoi j'ai choisi cela? Parce qu'il est essentiellement le Père, il est possible de toutes les familles. C'est-à-dire, toutes les familles peuvent faire de Dieu leur Père. Il s'agit par contre qu'ils prennent la décision de devenir un enfant de Dieu. Il n'est pas le Père universel de tout le monde. Il est le Père de celui qui décide de le prendre comme Père. Maintenant, ça s'est peut-être produit dans votre vie, et gloire à Dieu. Mais peut-être que vous hésitez encore à dire que de Dieu, Dieu est mon Père. Et si vous hésitez, c'est aujourd'hui le meilleur moment pour prendre cette décision de faire de votre Dieu votre Père. Bien, voilà, et rappelez-vous qu'il est votre Père vrai, votre véritable Père. Sans surprise, je n'ai pas eu le Père idéal. Si on regarde la définition d'un père idéal, c'est un père qui a plus de qualités que de défauts. Je n'ai pas eu ce genre de père-là. Et à son exemple, je n'ai pas été non plus ce père idéal qui avait plus de qualités que de défauts. Je n'ai pas été cela non plus. Il y a quelques années, je discutais avec ma sœur de nos parents qui sont décédés tous les deux. Et malheureusement, j'apprenais des choses que j'aurais aimé mieux ne pas connaître de mon père. J'étais bouleversé de cette nouvelle connaissance-là et ça m'a affecté. J'en ai perdu le sommeil la nuit qui a suivi la discussion. Et lorsqu'on ne dort pas, hein, qu'est-ce qu'on fait souvent? C'est qu'on prie. Donc j'ai prié Dieu. Et mes paroles s'adressaient surtout à mon Père céleste. On prie souvent à Dieu en disant « Père du ciel » ou « Papa » même, on dit ça souvent. Mais là, à ce moment précis, là, j'ai réalisé plus fortement que Dieu le Père n'était pas juste un nom, mais que c'était aussi quelque chose qui était véridique, qui était vrai, que ce Père du ciel-là pouvait accomplir parfaitement la fonction de Papa. Le bouleversement que je vivais, et instinctivement, je me tournais vers Dieu, puis je lui racontais tout ce que je vivais, tout ce que j'avais dans le fond du cœur. Et je me suis rendu compte que je parlais à quelqu'un qui s'est présenté à moi comme un père, comme un papa, comme un véritable papa. Les sentiments que je vivais étaient réels et m'apportaient ce qu'une relation d'un père avec un fils doit apporter. J'ai vécu un privilège, une bénédiction, un moment paisible dans une tourmente. Parce que je réalisais que j'avais un vrai Père. Au début de ma vie chrétienne, j'ai demandé à Dieu qu'un jour je puisse ouvrir la parole avec mon Père. C'est un de mes désirs. On demande toujours des choses à Dieu. Puis là, j'ai dit, Seigneur, j'aimerais tellement ça que je puisse ouvrir la parole de Dieu avec mon Père. Mon père, dans la chair, a décédé depuis, et ça ne s'est jamais fait. Mais Dieu a comme répondu à sa manière. Un jour, il s'est présenté à moi un mentor, un homme avec qui je pouvais partager des choses intimes. Un homme qui m'a encouragé énormément par ses enseignements, par ses encouragements, par ses réprimandes parfois. Et il m'a tellement encouragé que tout ce qu'il m'a dit est encore utile aujourd'hui. Je m'en rappelle encore comme si c'était hier. Mais étrangement, cet homme ressemblait physiquement à mon père. J'ai comme fait le lien, j'ai dit, ah oui, au début, je ne voyais rien, mais à un moment donné, j'ai dit, waouh, c'est vraiment ça, il ressemble à mon père. Et j'ai encore une photo de lui, puis je me dis, c'est vrai, il ressemble à mon père. Ceci pour vous dire, messieurs, que lorsque nous sommes papas, nous ne le sommes pas juste pour nos enfants légitimes, mais nous le sommes pour d'autres personnes autour de nous. Lorsque nous avons un jeune homme à côté de nous, nous pouvons être son père. Et j'étais dans l'enseignement des dernières années, j'étais dans l'enseignement, et il y a déjà un jeune homme qui m'a pris pour son père. Il me dit, mon père, je n'ai jamais connu, je n'ai jamais vu, c'était un trucker, puis il n'était jamais à la maison. Puis il a commencé à me partager des choses. Je dis, voyons donc, tu me prends-tu pour ton père? Il dit, ouais, dans un certain sens, oui. Ah, ouais. Être papa pour un homme, c'est quelque chose que l'on doit apprendre. On doit apprendre la paternité, contrairement à une femme qui est mère par instinct. Sûrement parce qu'elle porte le bébé, elle est mère avant même que le bébé arrive, 9 mois avant. Et aussi que Dieu a formé la femme avec un cœur pour être mère. Mais pour l'homme, c'est une autre histoire. On doit passer des étapes difficiles de la paternité. Au départ, jeune homme célibataire qui arrive un bébé dans sa vie. Wow, un bébé. Qu'est-ce que c'est ça? C'était difficile pour moi. Juste, peut-être pas juste pour moi non plus, peut-être pour d'autres personnes. Mais c'était un énorme défi. Dans mon métier, dans ce que je faisais, j'étais capable d'assumer beaucoup de responsabilités. Mais un bébé, c'est un défi énorme. Mes premiers pas comme papa ont été difficiles. Je me rappelle la première fois que j'ai eu un bébé dans mes bras. C'est quoi cette affaire-là? Ça se prend comment? Ça se brise-tu? Oui, sûrement. T'es inquiet. Juste le prendre. Ça s'est arrangé depuis, je peux vous garantir. Mais je me rappelle encore les premières années comme étant quelque chose de difficile. Le Seigneur aidant, parce que lorsque mes premiers enfants, je n'étais pas au Seigneur, et le Seigneur est venu à la troisième enfant, et avant, c'est-à-dire, les deux premiers, sans le Seigneur et sans expérience, c'était difficile. Le Seigneur m'a montré beaucoup de choses. Le Seigneur m'a montré à être un papa. Et l'expérience aidant aussi. Mais quand même, mes souvenirs de nouveau papa sont encore très imprégnés dans ma tête. Et un jeune papa, quand je vois un jeune papa qui commence, je me dis, ah, il ne sait pas où est-ce qu'il s'embarque, lui. Pour moi, c'était un apprentissage très difficile. Je vous garantis, mesdames, que nous les gagnons, nos galons de papa. On gagne ça, hein? C'est pas donné gratis. Lorsqu'on veut apprendre quelque chose de nouveau, lorsqu'on veut apprendre quelque chose qui nous est complètement inconnu, il existe plusieurs manières. J'étais en pédagogie les dernières années que je travaillais et on pouvait apprendre par toutes sortes de manières, toutes sortes de méthodes. Il y avait l'apprentissage par les pairs, il y avait l'apprentissage par démonstration et il y avait un apprentissage que j'aimais beaucoup, c'était l'apprentissage par l'exemple. Je privilégiais, lorsque c'était possible, d'avoir un exemple et le gros point dans un apprentissage, par exemple, c'est que plus l'exemple est authentique, plus l'exemple est vrai, plus l'exemple est conforme à ce qui devrait être, meilleur l'enseignement est. La valeur de l'enseignement vient de l'exemple. Si vous tentiez de reproduire le modèle d'enseignement que mon père a eu, ou même que moi j'ai eu, vous débuteriez à être handicapé comme papa. Vous auriez les mêmes handicaps que j'ai eus ou que mon père a eus. et probablement que son père a eu aussi. Vous partez avec des limites. Il ne peut pas avoir de meilleur modèle, de meilleur exemple que celui de Dieu. On l'a dit tout à l'heure, Adam l'a dit, je l'ai dit, Dieu est le Père. Il a été un véritable Père pour son Fils. Et la parole de Dieu va nous le montrer. Bien sûr, on n'arrivera jamais à la perfection paternelle de Dieu le Père. C'est impossible. Mais nous serons d'accord avec les principes que nous pourrons appliquer dans nos vies. On va être d'accord avec les principes que Dieu établit dans sa relation père-fils ou tout simplement mentor et mentoré. C'est dans une forme de père. Jésus a constamment appelé Dieu son père. Même les gens qui le définissaient, ils disaient « Tu es le Fils de Dieu ». Il était le Fils légitime de Dieu. Et pour Christ, être le Fils de Dieu, c'était son identité. Notre Père sert à notre identité. Je me rappelle dans le temps où j'ai travaillé un bout de temps en Abitibi. Mon Père y avait été avant moi. Et lorsque je suis arrivé en Abitibi, j'ai dit mon nom c'est Denis Gay. Ah! Dis, t'es pas le fils à Robert, toi? C'était mon identité, ma première identité. Et même récemment, la semaine passée, Hélène et moi, on était chez l'ophtalmologiste, et puis une dame qui était assise là, finalement, la conversation se déroule, puis Hélène se fait dire, t'es la fille à Gisèle et à Lionel, toi? Notre paternel, notre père, fait partie de notre identité. Et Christ a été de cette identité-là. Il était le Fils de Dieu. Et il ne se gênait pas pour le dire. La seule occasion où Christ n'a pas mentionné le nom de Père, c'était lorsqu'il était sur la croix, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » C'était la seule place où il n'a pas dit « mon Père ». Et déjà, ça me parle beaucoup, ça. La communion entre le Père et le Fils était évidente. Quels sont les attributs de Dieu comme Père? On pourrait en énumérer plusieurs. On pourrait en passer la matinée à expliquer les attributs de Dieu comme Père. Mais j'aimerais vous en laisser quatre qui vont nous aider à être des meilleurs pères. La première, si vous voulez bien, on va regarder, c'est l'autorité. Dieu est un Père qui a l'autorité. Il a le droit et il a le pouvoir de commander. Il a le pouvoir de dire les choses, voici ce qui doit être fait. C'est un leader. Jésus, le Fils de Dieu, croyait en l'autorité de son Père. Ce que Jean 19 dit, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Donc, le Père a l'autorité. La qualité de Père est une personne qui a un leadership dans sa famille. Un leadership spirituel surtout. Et c'est super important. Je ne ferai pas lever les mains aujourd'hui. Mais vous poserez la question à vos épouses, messieurs. T'aimerais-tu mieux un mari qui est un leader spirituel ou un mari qui amène plus d'argent à la maison? Qu'est-ce que c'est un leader spirituel? C'est un homme qui connaît la parole. C'est un homme qui est accroché à la parole. Au point que les principes bibliques forgent sa vie familiale. Les décisions qu'il prend viennent de la parole. Ils sont confortés par la parole. Ils sont approuvés par la parole. Les principes bibliques qui forgent sa vie familiale, il connaît la parole, il l'ouvre pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire. Un leader spirituel a l'autorité, car son autorité vient de la parole de Dieu. Et c'est important. C'est important qu'un homme soit un leader spirituel, qu'un chef de famille soit un leader spirituel. Il va du maintien de sa famille chrétienne. Un père qui dirige selon la parole devient un leader équilibré, sage et intelligent. Au contraire, celui qui néglige la parole met en péril son leadership. Il y a moyen d'être un père sans avoir de leadership. Je l'ai fait quelques années. Ce n'était que pour ma perte. Jusqu'à ce que Dieu me révèle qu'est-ce que c'était être un leader. Et il y a plusieurs conséquences pour celui qui s'éloigne de la parole. Sans l'autorité de la parole, qu'est-ce qu'un père devient? Il devient un enfant qui flotte, qui est emporté par toute vente de doctrine, par la tromperie des hommes, par leurs ruses dans les moyens de séduction. Si tu n'as pas la force de la parole, si tu n'as pas l'autorité de la parole dans ta vie, tu vas être ballotté, tu vas flotter, tu vas embarquer, veux pas. Que tu le veuilles pas, tu vas être emporté par toutes sortes de vents, toutes sortes de doctrines, toutes sortes de faussetés. Deuxième conséquence, tu vas avoir de la misère à discerner la volonté de Dieu. Celui qui n'est pas ancré dans la parole va avoir de la misère, des problèmes à trouver, à discerner ce qui est bien, ce qui est mal. À discerner ce qui est bon, ce qui est meilleur. À discerner ce qui est utile, ce qui est inutile. Ce qui est permanent, ce qui est passager. Tu vas être capable de choisir tes bons combats, parce que tu vas discerner les vraies choses. Et ça devient un atout majeur pour un père. Celui qui a l'autorité a aussi l'amour. L'amour du berger envers ses brebis. Un père, c'est un berger. Dans sa fonction. Je n'ai pas de moutons chez nous. J'ai des moutonnes. J'ai des filles. Non, j'avais des enfants, des jeunes filles. Et c'est souvent des brebis. Et vous vous rappelez dans Jean chapitre 10, et ça va être un travail que vous allez avoir à faire, les caractéristiques d'une relation d'un berger avec ses brebis. Je vous en donne deux. Deux caractéristiques, mais il y en a d'autres. Il y en a vraiment d'autres dans Jean 10. Vous ouvrirez l'évangile de Jean au chapitre 10, sortir les caractéristiques d'une relation entre un berger et ses brebis. Et j'aimerais vous en laisser une au verset 4, lorsqu'il dit, « Lorsqu'il fait sortir toutes ses brebis, il marche devant elles, le berger marche devant elles, et les brebis le suivent. » Et c'est une caractéristique d'un berger. De marcher devant ses brebis. Et un berger marche continuellement devant ses brebis. Et j'avais lu une histoire d'un homme qui était un guide touristique en Israël, et il disait ça à ces personnes dans l'autobus, « Un berger est toujours devant ses brebis. » Il est impossible qu'un berger soit derrière ses brebis. Et l'autobus fait le chemin et il voit un homme avec des brebis, mais l'homme est en arrière. Puis là, les gens disent, hey, regarde, c'est pas vrai ce que tu as dit, c'est pas vrai. Le gars, il fait arrêter l'autobus. Puis il sort de l'autobus, puis il va jaser avec le gars. Puis il revient tout sourire. Il dit, c'est pas un berger, c'est un boucher. Un berger est toujours devant ses brebis, parce qu'il va leur dire où aller ou ne pas aller. Il va leur dire les pièges. Il va être avec eux. Vous savez la différence entre un berger et un cow-boy? Un cow-boy, il est en arrière du troupeau, puis il pousse les bêtes. S'il y a des trous, s'il y a n'importe quoi, s'il y a du barbelé, c'est pas grave, ils vont passer au travers. Ils vont se blesser, c'est pas grave. C'est des bœufs. Mais le berger n'a pas cette idée-là. Le berger prend soin. Le berger se préoccupe. Le berger regarde les dangers et il prévient ses brebis. Le deuxième, c'est que je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je n'avais pas l'intention de mourir pour mes enfants. Mais si ça avait été là, j'aurais été jusque-là, je crois. J'aimais beaucoup mes enfants et je les aime encore d'ailleurs. Mais donner sa vie, donner du temps à ses enfants, donner beaucoup de temps, ça l'est donner sa vie. Il y a beaucoup de rêves que je ne fais pas dans ma vie parce que j'ai des enfants. Puis c'est normal, puis c'est correct. Et vous, je suis très, très dans mon tempérament, dans ce que je suis. Là, moi, je serais capable de partir demain matin, si vous voulez. Pour aller où? N'importe où. Où? Nowhere. À l'autre bout du monde. Ça ne me dérange pas, pantoute. J'étais un voyageur dans ma tête et dans mon corps. Mais j'ai des enfants. Je ne peux pas le faire. Puis c'est normal. J'avais donné ma vie, une partie de ma vie pour mes enfants. Donc, si vous avez des enfants, vous changez vos rêves. Et c'est normal. Lorsque vous aurez à trouver, lorsque vous avez trouvé ce qui caractérise un berger et ses brebis, dans le chapitre 10, terminez l'exercice dans la prière en demandant à Dieu comment je peux être un bon père. Comment est-ce que je peux ressembler à ce berger et ses brebis? La deuxième chose que Dieu a, un père, c'est quelqu'un qui aime sa famille. Dieu aime sa famille. Les liens qui se forment sont des liens de grande affection. On voit dans Jean, au chapitre 5, verset 20, où ce que le Fils parle du Père, il dit, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. C'est beaucoup plus que des mots. C'est un lien qui se forme. Il lui montre tout ce qu'il fait. Je me rappelle, lorsque j'étais tout petit, mon père réparait l'auto. Puis moi, j'étais couché en dessous, puis je disais tout le temps, « C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? » Jusqu'à temps qu'il me dise, « Sors d'ici, que je puisse travailler. » Mais mon père pouvait me montrer des choses. Et il se tissait des liens. C'est plus que des mots, ce sont des actions, c'est un accompagnement. C'est une présence dans les tâches, dans les loisirs, un partage mutuel que le père aime et que le fils ou la fille aime aussi. C'est quelque chose que l'on fait ensemble. Rien, absolument rien, n'a plus de valeur que du temps de qualité entre père et fils ou fille pour apprendre à se connaître, pour tisser des liens. Pour que les temps difficiles, pour que dans les temps difficiles, nous puissions dire, j'ai vécu quelque chose avec mon père, j'ai vécu quelque chose avec ma fille, avec mon fils. J'ai ce lien-là. Un père, c'est aussi quelqu'un qui reconnaît la valeur de ses enfants et qui sait l'exprimer. À quatre endroits dans les évangiles, les paroles du père ont résonné pour dire à ceux qui étaient présents, j'aime mon fils. Voici, c'est mon fils, celui en qui j'ai mis toute mon affection. Et à quatre reprises, Dieu le Père le fait pour son fils. Je ne me rappelle pas si mon père me le dit aussi souvent. On est d'une autre génération. Mais je ne me rappelle pas que mon père me le dit aussi souvent. Mais Dieu le Père a pris soin de dire à tout le monde, c'est mon fils, puis je l'aime. Un père, ça sait répondre aux besoins de ses enfants. dans Jean 11, 42, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé pour moi. Je savais que tu m'exauces toujours. » Comment se traduit les besoins? Ça peut être de l'argent, mais ça peut être aussi du temps de qualité. Ça peut être du temps juste pour eux, comme deux bons amis qui font quelque chose ensemble. Pas juste de travailler, pas juste de faire l'ouvrage pendant que l'autre est parti, mais d'aller à la pêche ensemble, d'aller visiter un musée ensemble, d'aller faire quelque chose de plaisant ensemble. Parfois, emmener la nourriture sur la table, c'est pas assez. Aller les mener à leur travail ou à l'aréna pour leur hockey, c'est pas assez. Je sais pas jouer à le jeu vidéo. J'ai réussi à toffer 15 secondes. Mais je suis intéressé à apprendre ce qu'ils vivent. Je suis intéressé, sans jouer, mais les regarder jouer au moins. Puis dire, ah, tu fais ça de même, tu fais ça de même. Je suis intéressé à ce qu'ils sont intéressés. Non pas juste à ce que moi, ça m'intéresse. Oui, je vais lui demander de tondre le gazon un jour, mais il va falloir que je lui demande d'autres choses aussi. Il va falloir que j'aille dans son côté. Je ne veux pas être un extraterrestre pour lui. Il y a aussi des activités qui assemblent les générations. On dit ça souvent chez nous, la pomme n'est pas tombée loin du pommier. Il y a sûrement des choses à laquelle que vous vous accordez, que vous devriez privilégier. Et ça, c'est des marques d'affection. La communion. Il y a une différence entre la communion et la communication. On peut communiquer, être avec. On peut communier, être présent. La présence rassurante du Père est un baume dans la vie. Jésus l'exprime bien dans Jean 16, 32. « Où vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. » Il va dire aussi « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui est agréable. » Jésus savait ce qui fait plaisir à son Père, justement à cause de la proximité, de la connexion qu'il avait l'un envers l'autre. Et l'amour réciproque a provoqué ce désir de plaire qu'il y avait en Jésus. On voit une communion qui plaît au Père et au Fils. Le Père est un bon papa à cause de la communion qu'il avait avec son Fils. Un père est au courant des bons coups de ses enfants. Il lui fait savoir. Waouh, c'est bon ce que tu fais. Jésus savait ce qui plaisait à son Père et il le faisait. On n'a pas la maturité du Fils de Dieu pour être parfait. Mais on a quand même le modèle, la manière de faire. Comme Père, nous avons besoin d'être présents dans les moments agréables de nos enfants. C'est vrai pour les grands moments de la vie. C'est vrai aussi pour le quotidien. Vous savez, on entend souvent dans les maisons, « Va jouer dehors! » Tandis qu'on devrait plus entendre, « Viens jouer dehors avec moi! » Être en communion. La vie est difficile pour nos enfants. Et nos enfants ont besoin de se faire dire qu'ils sont bons. Ils ont besoin de reconnaître la valeur en eux pour les propulser plus loin. J'ai 66 ans. Et je sais aujourd'hui ce que j'ai manqué quand j'étais jeune, que mon père ne m'a jamais dit, que j'aurais eu besoin d'entendre. Peu importe ce qu'ils vont faire plus tard dans leur vie, ça va être plus facile pour eux si vous avez pris du temps avec eux. Si vous les avez donné une vie, pas toujours facile, mais agréable avec vous. À l'âge où ce qu'on a nos enfants, ce sont des éponges. Nos enfants sont des éponges qui absorbent. qui absorbent ce qui leur arrive. Il est important qu'ils absorbent la valeur d'eux-mêmes, qu'ils sachent ce qu'ils valent. Et c'est vous, les parents, la mère aussi, le père et la mère aussi. C'est vous qui allez leur dire ce qu'ils valent. Qu'ils croient dans leur capacité à bien faire les tâches. Tu es capable de faire ça. C'est pas parfait. Tu es capable de le faire pareil. Je me rappelle l'automne, quand on rentre le bois de chauffage, il y avait ma petite fille. Elle avait de la misère à tenir une bûche dans ses mains. Mais elle rentrait du bois avec moi. Pensez-vous qu'elle en rendrait beaucoup? La troisième bûche était morte. Mais elle a rentré sa troisième bûche. Hey, j'ai dit, tu fais bien ça, toi? Quelle valeur, toi, bûche? Non, c'est énorme! Ils ont besoin de vous pour développer leur goût d'apprendre. Ils ont besoin de vous pour leur capacité de bien négocier avec l'échec. Ils ont besoin de vous pour apprendre sur ces choses-là. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai plus de jeunes enfants. Mais savez-vous quoi? J'ai encore mon mot à dire dans leur échec. J'ai encore ma manière de faire dans ce qu'ils ont à vivre. Et pourtant, mes enfants sont partis, ils sont loin. Mais je me rends compte que je suis encore un papa. Et ça, ça me fait plaisir. La dernière chose que j'aimerais vous parler, c'est l'honneur. On est d'accord que Dieu mérite d'être honoré. Dieu est honorable. Il mérite tout honneur et toute gloire. Parce qu'il n'y a rien qu'il a fait qui était déshonorant. Il mérite l'honneur par ses actes, par sa parole, par sa pensée. Et Christ honore son Père, et le Père fait de même. Dans Jean 5, 23, il dit, « Je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père, et vous m'outragez. » Si vous examinez la parole, vous verrez que l'honneur est lié à nos actions, notre attitude. La question que l'on doit se poser, est-ce que nos actions sont des actions honorables? Est-ce que nous sommes des hommes d'honneur? C'est-à-dire que nous sommes aussi sérieux pour lire la parole que pour la vivre. J'ai fait des obsèques cette semaine, mercredi passé, et la dame qu'on mettait en terre n'était pas une exégèse de la parole. Elle n'avait pas de grande connaissance de la parole. Mais elle avait une qualité, c'est qu'elle appliquait ce qu'elle savait. Elle mettait en action les paroles qu'elle connaissait. Et c'est là une grande valeur. Et c'est là la noblesse. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, soit l'objet de vos pensées. Philippiens 4:8. Accomplir convenablement ce que nous avons à faire donne de l'honorabilité. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère, et savez-vous qu'être un père, ce n'est un ministère, ça? C'est d'ailleurs le premier ministère. Avant d'être un ministre dans l'Église, je devrais être un ministre dans l'Assemblée, dans ma maison. S'acquiert un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. La signification du mot honorable, c'est ce qui agit dans le respect des demandes de Dieu, dans ce que Dieu demande. Ce n'est pas nécessairement bien ou mal, là, mais de regarder ce qui convient le plus comme chrétien et en plus comme père. J'enseignais un jour à l'école, puis j'avais un bon groupe d'étudiants. C'était des gentils garçons. C'était pas des voyous. C'était des jeunes hommes qui commençaient une nouvelle carrière. Mais bon, comme tous les jeunes hommes, ils sont pleins de vie, là, puis ils veulent essayer toutes sortes d'affaires. Puis ils me disent à un moment donné, à la fin du cours, ils me disent, hey, on va prendre une bière à taverne, à l'hôtel, au bar, je sais pas où, là. Puis ils disent, tu viens-tu prendre une bière? Puis je ne sais pas pourquoi, j'ai dit, ouais, OK, une bière. C'est beau, une bière. Fait que, il n'y a rien de mal là-dedans. Fait que je prends, je m'en vais avec eux autres, puis je m'en vais, ils choisissent un bar. Fait que là, je m'assieds à la table, puis là, je prends une bière. Je commande une bière. Et dans les secondes qui ont suivi, pas qu'une autre bière, pas qu'une autre bière, pas qu'un ci, pas qu'un ça, pas qu'un ça, tout le monde voulait me voir sous. J'ai dit, je ne sais pas de qui a payé tout ça, là, mais il va devoir le boire. Parce qu'oubliez pas ce que je vous ai dit, une bière. C'est pas ça que j'ai dit? Ouais, mais une bière. Mais j'ai réalisé par après, c'est peut-être pas mal de faire ça, mais ce n'était pas la place. Dans mon code de déontologie d'enseignant, je ne pouvais pas faire ça. Et j'ai rentré à moi-même, j'ai dit, je ne crois pas que mon écusson, le CFM, l'endroit où je travaillais, là, me permette de faire ça. Je dois garder un certain décorum, je dois garder une certaine place. Et c'est ça, l'honorabilité, c'est ça, la noblesse. D'aller plus loin que c'est bien, c'est mal, d'aller à dire, qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je ne dois pas faire? Et c'est ça l'honorabilité. Qu'est-ce qui convient le plus? Être honorable demande des efforts, demande de la concentration. Ça demande de faire des introspections, de rentrer en soi-même en disant, j'ai-tu bien fait de faire ça? J'ai-tu bien fait de dire ça? Est-ce que je fais bien de penser cela? Si je veux être honorable, je dois rentrer en moi-même et me vérifier et demander à Dieu qu'il m'éclaire face à mon honorabilité. Lorsque je me trouve dans une situation ambiguë, je dois me poser la question, qu'est-ce que je m'apprête à faire ou que je suis en train de faire maintenant? Est-ce que je le ferais si Christ était à côté de moi ou si Christ était d'un côté et que ma femme et mes enfants seraient de l'autre côté? Est-ce que je le ferais la même chose? Si c'est oui, tu peux continuer. Mais si c'est non, sors de là. Nous ne serons jamais parfaits. Jamais, jamais. Malgré que ce soit ça que l'on vise, on vise la perfection. On ne vise pas, Seigneur, je voudrais être un 2 de pique. Ça ne marche pas, ça. Seigneur, je voudrais être un 1 de pique pour toi. Je voudrais être un 1 de cœur pour toi. C'est ce que je vise. Mais Seigneur a averti ses disciples. Dans Matthieu 10, 16, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Frères et sœurs, et vous les pères, vous êtes aussi des brebis au milieu des loups qui vont essayer de vous faire descendre de votre responsabilité de père. Vous savez, la famille est extrêmement attaquée, c'est ainsi. Et les leaders le sont encore plus. Donc, soyez prudents. Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Soyez des pères qui font un bon travail, qui agissent convenablement, qui aiment les enfants, qui aiment sa famille, qui donne sa vie pour sa famille, qui a une bonne communion avec ses enfants et qui est un bon leader spirituel. Seigneur Dieu, tu nous mets en garde de notre responsabilité. Tu nous mets en garde sur ce que nous devons faire. Oui, le monde est attirant, les choses du monde sont attirantes. Nous pouvons avoir toutes sortes de pensées, toutes sortes d'actions, Seigneur, qui ne correspondent pas à ce que tu nous demandes. Ce que nous te demandons, Seigneur, c'est de nous diriger, d'entrer en nous-mêmes, de nous montrer encore avec plus de force qu'est-ce qui ne convient pas à la paternité, qu'est-ce qui ne convient pas à ce que tu nous demandes. Seigneur Dieu, nous voulons faire vraiment la bonne job pour toi. Nous voulons faire, nous voulons prendre notre responsabilité et accomplir ce ministère que tu nous as donné. Nous avons décidé d'avoir des enfants. Nous avons décidé, Seigneur, et c'est une belle chose d'avoir des enfants. Mais ce privilège vient avec des responsabilités. Permet que l'on soit conscient de plus en plus de ses responsabilités et qu'on les prenne. Du début jusqu'à notre mort. Nous te remercions, nous te rendons gloire par le beau nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.